La vie d'Einstein dans ces années 1900, on peut dire qu'elle se confond presque entièrement avec sa recherche, avec la recherche fondamentale en sciences physiques. On est à une époque de grande crise de la physique, puisqu'il y a deux théories contradictoires et qui pourtant, c'est tout le problème, se confirment expérimentalement. Dans le domaine mécanique, eh bien, on peut dire que tout repose sur le principe de la relativité du mouvement. Ça, on a tous appris ça à l'école, même à l'école primaire, hein, ce principe énoncé par Galilée qui dit que, en matière de mouvement, tout dépend du référentiel. Hein. Est-ce que c'est la vache qui regarde passer le train ? Est-ce que vous êtes dans le train quand vous voyez la vache sur le bord de la voie, vous connaissez tout ce problème-là. Et puis, simultanément dans le domaine électromagnétique, les lois de Maxwell, qui remontent à l'époque à plus de 50 ans, décrivent la lumière comme une onde qui se propage régulièrement dans ce qu'on appelle l'éther, un éther immobile. Donc vous voyez la contradiction, évidemment, avec la relativité du mouvement. Cette contradiction, elle s'incarne dans un paradoxe. D'un côté, vous avez la matière avec des atomes, une discontinuité matérielle, et puis de l'autre côté, si vous chauffez cette matière, par exemple, vous prenez un fil de tungstène, vous le chauffez, il va finir par faire de la lumière. Et là, vous êtes dans la continuité. Eh bien, la notoriété d'Einstein et bientôt sa célébrité, elle va se faire précisément sur la résolution de ce paradoxe. Et la grande année, c'est l'année 1905, quand le petit employé de cet office des brevets va publier 6 grands articles, dont 3 font exploser littéralement les conceptions de l'époque sur le monde physique. Surtout le premier, hein, qui expose un point de vue tout à fait révolutionnaire sur la nature de la lumière. C'est publié dans Annalen der Physik. Voilà ce qu'en dit un très très grand physicien, le professeur Louis de Broglie, qui était en même temps un esprit très éclairé, sans mauvais jeu de mots. Le jeune Einstein, nous dit le prince de Breuil, qui connaissait les travaux de Planck sur les quantas, eut l'idée d'introduire la conception des quantas dans la théorie de la lumière et de supposer qu'il existait dans les ondes lumineuses des concentrations d'énergie que l'on pourrait appeler corpuscules de lumière. Voilà la double nature de la lumière enfin comprise, à la fois ondulatoire et corpusculaire. Dans un deuxième article, Einstein tord le cou à la théorie de l'éther. Pour lui, l'éther n'a pas lieu d'être. La seule donnée pertinente pour décrire la lumière, c'est sa vitesse qui, elle, est constante quelle que soit la vitesse ou la position de l'observateur. Ça, c'est ce qu'on appelle la notion de la relativité ordinaire ou relativité restreinte. La matière comme la lumière subissent ce principe de relativité. Or, le caractère simultané des deux états est dépendant de l'observateur. Et là, on peut dire que le temps lui-même devient relatif. Je vous rassure, on n'ira pas beaucoup plus loin aujourd'hui dans la théorie scientifique, mais on est au cœur même des découvertes d'Einstein. Et dans cette même année, dans cette grande année 1905, en septembre, Einstein ajoute une sorte de post-scriptum à son article. C'est là qu'il formule, alors là, la formule est archi célèbre, c'est cette équation qui lie la matière à l'énergie, E égale mc2, l'énergie est égale à la masse facteur du carré de la vitesse de la lumière. Ça, ce sera le socle des travaux de la physique atomique. Reste tout de même à généraliser ces résultats à toute la physique. Seulement à mesure que ces travaux se développent, Einstein éprouve le besoin de disposer de plus de temps, de meilleures bases mathématiques. Alors il démissionne de son bureau des brevets, il postule pour l'université de Berne, il va enseigner à Prague en 1911. En 1912, il est de retour à Zurich. Il est à ce moment-là professeur de cette fameuse école polytechnique où il avait enseigné tout à l'heure. Il retrouve d'ailleurs Grossmann qui va beaucoup l'aider. On peut dire que ce sont là des années peut-être un peu moins fructueuses, en tout cas sur le plan des résultats. Or, en 1915, Einstein reçoit une carte du mathématicien Hilbert, un mathématicien de Göttingen. Et Hilbert a écrit « Monsieur, cher confrère, j'ai trouvé une solution axiomatique à votre grand problème. » Et là, Einstein se dit « Mais ce Hilbert va me voler mon idée ? Alors tout ce long travail, toutes ces incroyables intuitions pour finir sur une théorie de la relativité générale qui sera signée Hilbert ? » Ça, pour Einstein, c'est impossible. Alors, comme un diable, il se replonge dans ses équations, il reprend ses calculs sur la déviation des rayons lumineux, il change un certain nombre de paramètres, et en novembre 1915, a épuisé, ça on peut le dire, mais heureux, Albert Einstein met un point final à sa théorie de la relativité générale. Ça, c'est son grand œuvre, c'est son coup de génie, c'est ce que lui seul, très probablement, était en mesure de découvrir.